Le bistrot des ethnologues. Mardi 6 octobre, l'ARCE, atelier de recherche comparative en ethnologie, recevait dans le cadre du bistrot des ethnologues Daniel Weatherland. Ce sociologue et professeur à l'Université de Toulouse est venu débattre autour de son dernier ouvrage « Nous, les mecs ». Daniel Weatherland a choisi de leur parler, de dire comment on devient homme, ce que cela signifie concrètement que d'être un mec, affectivement, sexuellement et professionnellement.
Il y a moins de garçons que de filles ce soir. Ça va peut-être poser un problème à un moment, parce que je fais des tests des fois. Mais bon, on fera avec. Alors, il y a toujours eu des réfractaires à la virilité. C'est important de le dire et de le savoir. Il y a eu des mecs qui ont été fusillés en 1914 parce qu'ils refusaient de faire la guerre. Il y a eu des anarchistes qui ont été inculpés parce qu'ils se faisaient vasectomiser en 1936. Il y a eu des hommes qui, en 1978-79, ont pris la pilule pour hommes. Il y a eu des mecs qui sont battus contre le sexisme, etc. etc. Il y a toujours eu... on n'est pas les femmes contre les hommes. On est un groupe social de sexe, les femmes, qui se bat politiquement, socialement, contre une oppression. Et de tout temps, il y a eu et des femmes qui collaboraient avec les dominateurs, qui dénonçaient les femmes militantes, et des mecs qui collaboraient avec les femmes qui se battaient contre l'oppression. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un truc biologique. On est dans une lutte sociale. Et une lutte sociale qui va avoir des prolongements scientifiques à l'université. Et d'où les garçons, on va être construit avec le fait qu'il y a une sainte virilité. Pour être un mec, il faut être viril. Pour être un vrai... Alors, avec toutes les ambiguïtés de ce que peut vouloir dire la virilité. Moi, j'ai beaucoup lu Maurice Godelier, qui est un anthropologue qui a travaillé sur les Barouillas. Les Barouillas, c'est un peuple qui a 5-6 000 personnes, qui vit en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il y a un peuple à forte domination masculine. Non seulement les hommes dominent les femmes, comme en France, mais en plus, il y a des grands hommes. Et puis même les chemins que doivent prendre les hommes et les grands hommes ne sont pas les mêmes. Et ceux des femmes non plus. Quand un garçon a 8-9 ans, on le prend des jupes de sa mère. Je ne sais pas vraiment si les femmes barouillées ont une jupe, on j'imagine, ou une robe, on s'en fout. Et on l'amène dans la maison des hommes qui est au-dessus du village. Et on lui apprend un certain nombre de secrets. Secret qu'il ne doit pas dévoiler sous risque de mort. Et tous les ans, dit Godelier, il y a des hommes, il y a des garçons qui meurent, qui tombent de l'arbre. Et on ne sait pas si c'est vraiment une tombée de l'arbre ou si on ne les a pas poussés. Dans les secrets qu'apprennent les garçons barouillas, il y en a plusieurs. Il y en a un qui est assez rigolo, c'est que quand les femmes barouillas sont en colère, elles prennent des flûtes magiques, elles vont dans la forêt, elles invoquent les dieux. Et entre hommes, on apprend aux garçons barouillas que laissez-les faire. Ça fait longtemps qu'on a piqué les flûtes magiques, qu'on les a remplacées par des fausses flûtes magiques. Ça les calme. Un autre secret, c'est que les garçons ingèrent le nec plus ultra de la magie, du savoir, et c'est le sperme. Donc quand on est garçon et non pubère, on boit le sperme des aînés, et au fur et à mesure qu'on produit du sperme, on le donne aux plus jeunes et on prend le sperme des anciens. Et ça, c'est, faut pas qu'elles sachent ça, les femmes. D'ailleurs, quand on veut répudier une femme, on arrête de lui filer son sperme à boire, elle a plus de lait. Elle croit, elle, parce que c'est une femme, que c'est parce qu'elle a du lait qu'elle a des enfants. Mais je pense que les femmes françaises croient ça aussi. Parce qu'elles ont du lait, qu'elles aident les enfants. Les mecs barouillas, ils ne sont pas cons. Ils savent qu'il faut les laisser croire, les femmes barouillas. Mais que tant qu'elles boivent leur sperme, elles ont du lait. Et en effet, il y a un accord entre les barouillas et les groupes autour qui fait que quand une femme est répudiée, elle n'a plus rien à manger. Elle n'a plus de lait. Donc, il y a un certain nombre de trucs de dispositifs, de connaissances qu'on apprend aux garçons qui ne doivent pas être révélés aux femmes. L'hypothèse que j'ai faite en 1994, c'est que chez nous aussi, il y a une maison des hommes. Alors, je m'adresse aux garçons. Nous, les garçons, on est éduqués entre pairs, P-A-I-R-S, dans les cours d'école, dans les clubs de sport. On nous apprend ce que c'est que devenir un vrai mec, ce que c'est que d'être un mec. Et quand on est entre nous, qu'il y a une femme qui arrive, on change de sujet de conversation. Il y en a, elles ne savent pas ce qu'on vit dans les clubs de sport, dans les vestiaires. Il y en a, elles ne savent pas ce qu'on vit dans les sex shops, le fait qu'on baise ensemble, par exemple. Elles croient qu'on va se branler dans un film porno hétéro. Non, on baise ensemble. Il y en a, elles ne savent pas qu'on peut les aimer, mais qu'on peut les baiser ailleurs, avec une nana, que ce n'est pas important, ou avec un mec. Et entre nous, on sait qu'on ne peut pas tout dire, parce que c'est des femmes. Alors, non pas parce qu'elles ont une biologie de femme, parce qu'elles sont construites socialement comme femmes. On les aime bien. Mais par exemple, on nous a appris... Alors, je ne ferai pas le sondage ce soir, il n'y a pas assez de garçons, ça serait trop nominal. En général, quand je le fais, il y a entre 95, ça dépend des générations, et 99% des garçons qui ont vu pour la première fois une femme à poil dans leur vie, en regardant ou en feuilletant de la porno, ou en visant de la porno, en bande de mecs. Et en général, c'est même avant la puberté. Imaginez, avant même que j'ai pu éjaculer la première fois, je feuillette ou je regarde la porno et je bande. Mais je bande devant une femme ou des femmes que je ne connais pas. On m'apprend socialement quel bout de corps de femme doit me faire bander, quel type de corps de femme doit me faire bander. Je vous conseille, si vous voyagez beaucoup, d'acheter Playboy dans tous les pays que vous traversez. Non pas pour le contenu journalistique, mais pour la playmat qui est au milieu. Parce qu'elle me dit, dans chaque pays, petit sein, petit cul, gros cul, hanche développée ou pas. Autrement dit, la porno nous apprend à nous les garçons, nos modèles érotiques. Mais surtout, elle nous apprend qu'on doit bander devant des femmes qui ne sont pas de nos connaissances. Des femmes qu'on vole, qu'on pique la porno de nos parents, ou qu'on télécharge des trucs illégaux, ou des femmes qu'on paye. Dans ma socialisation de garçon, on m'a appris à être client. À la même époque, mes copines, soit elles lisaient la série Harlequin, soit Marguerite Duras, ça dépend des classes sociales. Mais dans tous les cas, on leur expliquait qu'il y avait un tout en un. Un mec était amant, copain, mari, un beau mec. Et que l'amour, c'est un tout en un. Comment l'expliquer à ma copine, à ma compagne légitime aujourd'hui, que des fois, j'ai envie d'une autre nana ou d'un autre mec, bon, ça c'est mon cas, moi, mais chacun n'est pas obligé de choisir, ou il y a peut-être des mecs qui font que des mecs, et que, mais quand même, je l'aime. Pour elle, l'aimer, c'est y a qu'elle. Et pourquoi, je dirais, même si je suis antisexiste, même si je suis critique de la domination masculine homophobe, pourquoi je dirais qu'elle a raison? Pourquoi moi, garçon, je devrais me soumettre au modèle qu'elle me propose? On voit bien qu'il y a questions et problèmes et que la période historique dans laquelle on est n'est pas si simple que ça. Alors, dans l'éducation masculine, on va avoir un certain nombre de choses. J'ai parlé de Dieu performance. Pour être un mec, je dois être le meilleur, le plus fort. Celui qui gagne. Celui qui arrive le premier. Dans cette socialisation, un organe masculin va poser problème, c'est la queue. Certains diront le phallus, le pénis, c'est pas rien. Parce que on va nous apprendre... j'ai travaillé au monde du Minitel Rose, sur des sites qui étaient gérés par... le progrès à Lyon, il y avait un sexologue qui répondait aux questions. C'était un vrai sexologue, il s'appelait Pascal Collat, qui est toujours sexologue d'ailleurs, qui est un bon sexologue. Et il répondait aux questions. Plus de 50% des questions concernaient la queue. Elle penche à droite, docteur, est-ce que c'est normal? Elle penche à gauche, docteur, est-ce que c'est normal? Elle penche en haut, docteur, est-ce que c'est normal? Les garçons ont un problème avec leur queue. Et le bouquin de Rico Siffredi, Drogo Siffredi, qui fait 23 cm, n'est pas là pour rassurer les garçons. Est-ce que ma queue est normale, docteur? En gros, notre pénis, c'est le symbole de la virilité, mais en même temps, plus que ça. A priori, je suis un garçon parce que j'ai un pénis. Et mon rapport avec une femme serait la pénétration avec mon pénis. Je pense que c'est pas simple. De la même manière, l'angoisse de bander ou pas bander va accroître avec l'âge. Alors, on a une chance actuellement. Merci Viagra, merci Cialis, merci Levitra, c'est les trois molécules qui existent. Grâce à elles, on peut bander à la commande. C'est pas rien. Je signale que la libre molécule est dans, à 2013, dans 3 ans. Donc le prix va baisser. Ça veut donc dire que quel que soit mon âge, quelles que soient mes hormones, je peux bander. Quand on sait l'angoisse des mecs sur leur queue qui bandent ou pas, qui bandent pas, ça changera des choses. D'ailleurs, on va dans le sens de l'OMS qui, en 1992, a déterminé que la sexualité, la bonne sexualité, correspondait à une bonne santé pour tout le monde. Et pour les femmes, si j'ai bien compris mes confidents et mes informateurs, d'ici un an, vous aurez une surprise, à savoir l'équivalent du Viagra pour les femmes. Autrement dit, la bonne santé sexuelle sera aussi pour les femmes, c'est ça l'égalité. Mais on reste quand même autour d'un organe qui reste central dans la définition de la vérité, qui est le sexe. Et qui n'est pas si simple que ça. En même temps, on reste dans une socialisation masculin-féminin qui fait du totémisme de la différence. Autrement dit, je demande à chacun et chacune, hétéro dans la salle, il y en a quelques-uns, je pense, de penser à ses rapports sexuels et érotiques. Qu'est-ce qu'on érotise chez l'autre? Les symboles de la différence. Par exemple, on a tous un anus. On pourrait érotiser l'anus, une partie commune. Non. Le trou du cul, la sodomie, c'est un peu particulier. On érotise le phallus et la chatte. On érotise les seins des femmes. On érotise et on nous a appris à érotiser tous les symboles et à totémiser tous les symboles de la différence. Autrement dit, on nous a construit dans une pseudo-naturalité comme quoi hommes et femmes, d'abord, on est différents. On n'a pas regardé ce qui est commun. Il y a plein de trucs communs. On a d'abord mis l'exergue, on a d'abord érotisé, on a d'abord créé une culture de la différence. Et une culture très hiérarchisée. Parce qu'on pourrait avoir une culture de la différence qui est rigolote, qui est la, on est les mêmes, on est différents. Sympa, ça. Non. Les femmes ne sont pas des hommes. Elles ne le seront jamais. Je vous renvoie aux travaux sur les trans. Hein. Ils sont passionnants parce que quand une personne dit « Moi, je suis né avec un sexe féminin, mais je suis un vrai mec », comment on se comporte avec elle? Comment on l'accepte? Pourquoi le sexe est une indisponibilité d'État? Il faut des lois pour changer de sexe. Pourquoi? Je range le prénom, je peux le faire, mais en quoi cette valeur-là a été utilisée et construite par les lois? Dans ma socialisation de garçon, on m'a appris que j'étais un mec. Pas de problème. Donc, j'étais différent d'une femme. Et je devais le prouver sans cesse. Comme garçon, je ne devais pas chialer. C'est les gonzesses qui chialent. Comme garçon, je ne devais pas être trop sensible. C'est les femmes qui ont une sensiblerie. Comme garçon, je devais apprendre à me battre. Les femmes font à manger, s'occupent de l'intérieur. Moi, je suis un mec, un guerrier. Et comme garçon, je devais être le premier, le meilleur. Et puis, on m'a appris aussi que... Enfin, on m'a pas appris, j'ai vu que les garçons autour de moi qui n'arrivaient pas à être les meilleurs, les plus forts, ceux qui étaient faibles, je parle même pas de ceux qui étaient efféminés, c'est encore pire, ceux-là, c'était, on rigolait d'eux. Mais non seulement on rigolait d'eux, mais on leur cassait la gueule pour s'amuser entre nous, entre mecs. C'est-à-dire que les mecs qui n'arrivent pas à prouver qu'ils sont les garçons virils, ils servent de bouc émissaire à tous les garçons. Mais en même temps, ils servent de menace collective. Tu veux pas être un mec, voilà ce qui va t'arriver. On va te considérer comme une gonzesse. Tu chiales, tu vas te plaindre, tu vas me dénoncer, t'es une gonzesse, j'ai cassé la gueule. Tu es une gonzesse sous son équivalent symbolique, le PD. T'es un PD. T'es pas un mec, t'es un PD. T'es rien. T'es rien, puis je peux te tuer, je peux te casser la gueule, je peux te piquer ton fric, je peux te piquer ton blouson. Et quand on écoute les garçons qui ont été désignés, quelle que soit leur sexualité aujourd'hui, comme homosexuels dans les cours d'école, dans les clubs de sport, dans la rue, dans l'espace public, c'est ce qu'ils racontent. Ils ont été agressés, violentés, parfois violés. Moi, j'étais éducateur à Paris dans le 17e et je bossais près du Batignolles. Je bossais Porte d'Anières et pas Square des Batignolles, mais mes collègues bossaient Porte des Batignolles, Square des Batignolles. J'ai découvert en bossant sur le viol, en interrogeant des garçons homosexuels, qu'ils avaient été violés Square des Batignolles. Quand les loubards qu'on connaissait, qui nous racontaient qu'ils faisaient la chasse au PD, la chasse au PD, c'est les dépouiller, leur piquer leur blouson et les violer. On viole des mecs parce qu'ils sont homosexuels. J'ai interrogé dans les prisons, je fais un bouquin sur les prisons, j'ai interrogé dans les prisons un violeur d'hommes. Non seulement violeur, mais meurtrier d'hommes. Un ancien légionnaire. La première chose qu'il me dit, vous savez monsieur, je suis pas homosexuel. Je dis oui, je sais. C'est un mec actif. Il baisait les mecs, il baisait Nana. Et c'est un mec qui aurait pu dire, pourvu qu'il y ait des trous, des poils, et que ça pue. Nous, les garçons... On est éduqué sur le fait que quand on est garçon, on est actif. Être passif, c'est être une fille. Ou son équivalent symbolique, être un homosexuel. C'est important au niveau théorique parce que je pense, j'y reviendrai plus tard, qu'on confond homophobie et hétérosexisme. Quand on stigmatise un mec parce que c'est un PD, on va prendre autrement. Dans la rue, je suppose que plusieurs personnes ici ont déjà rencontré des personnes en disant « ça, c'est une personne homosexuelle ». À quoi on les reconnaît ? En général, quand je fais le sondage en réel, on ne reconnaît pas les femmes. Comme si les lesbiennes n'existaient pas. Ou comme si une lesbienne, c'est une femme qui n'a pas trouvé encore un mec capable de les faire jouir. Homme que garçon, beaucoup de garçons pensent pouvoir devenir. On reconnaît des homosexuels mâles. À quoi on reconnaît un PD ? Non pas au fait qu'il embrasse un autre mec, ou qu'il lui tienne la main. Au fait qu'il soit un peu efféminé, la manière de faire, de bouger, d'être habillé. Et chaque fois, on nous invoque des signes de féminitude. Je vous invite à acheter Têtu, un journal très sérieux, homosexuel, mensuel, et de regarder la partie centrale comme Playboy. Regardez les icônes gays aujourd'hui, c'est des mecs hyper virils. Cheveux rasés, petite moustache, petit cul bien serré. C'est pas des dentouses. Hein. L'homophobie, c'est la stigmatisation des qualités ou des défauts attribués à l'autre genre. Ça n'a rien à voir avec la sexualité des gens. L'hétérosexisme, c'est la promotion sans cesse de l'hétérosexualité. C'est autre chose. N'empêche qu'un mec qui n'est pas mâle, viril, un mec un peu efféminé, un peu sensible, qui parle de lui, eh bien, il va être vite déqualifié du côté des garçons. Et le risque, c'est qu'il soit maltraité. Je passe rapidement sur les grades de la virilité. Je pense que tous les garçons, on n'a pas les mêmes grades dans l'échelle de la virilité. On a aussi nos grands hommes. Vous savez, Chirac, par exemple, c'est un garçon qui a été maire de Paris très vite, député. Je suppose qu'il n'a jamais fait les courses au marché. Il a toujours, quand on est haut fonctionnaire, on a deux fonctionnaires qui s'occupent de nous au niveau domestique. Cuisinière, chauffeur, garde du corps. On a aussi nos grands hommes, chercheurs, ethnologues, médecins, chirurgiens, guerriers, capitaines, commandants, général. Et puis les hommes ordinaires. Alors, c'est clair que tous les hommes, on a droit à des privilèges. En tout cas, des privilèges au sens où on a plus d'avantages que les filles qui sont à côté de nous. Mais nous, les mecs, on sait très bien qu'il y a les mecs et les grands mecs. Et que quand on est en face de notre patron, qu'on est en face d'un député ou d'un ministre, on se la joue petit. On n'est pas dans l'altérité, on n'est pas égal. Autrement dit, qu'il y a aussi une hiérarchie masculine qui s'exerce. Je plaide aujourd'hui pour qu'on travaille sur les matrices de virilité. Autant la domination masculine est transversale à la plupart des peuples du monde, avec des formes diversifiées, autant les hommes sont construits comme mecs à travers le monde, autant je pense qu'on n'est pas forcément construit de la même manière. J'ouvre une parenthèse sur la question des migrants, des hommes migrants. Et quand je parle migrants, ce n'est pas les gens qui s'appellent Abdel ou Kader et dont leurs familles sont venues il y a 30 ou 40 ans en France, comme moi d'ailleurs. Mais c'est les gens qui sont venus depuis quelques mois en France. Je pense que les matrices de virilité, notamment le rapport aux femmes ou aux autres hommes différents, notamment aux homosexuels, diffèrent d'ère culturelle en ère culturelle. Et j'en prends pour exemple la question des hommes violents en Espagne, où à Madrid s'est ouvert un groupe d'accueil pour hommes violents spécial migrants. Quand on est là depuis 3 mois et qu'on vous dit, quand on est là depuis 10 ans, ou 30 ans, ou 50 ans, et qu'on vous dit on est pour l'égalité homme-femme, c'est ça notre option, tout le monde comprend. Quand on est là depuis 2-3 mois et qu'on vous dit on est pour l'égalité homme-femme, il y a des mecs qui ne comprennent pas trop ce que ça veut dire. Il y a des femmes non plus, d'ailleurs. Ça veut donc dire qu'il faut tenir compte dans le système mondialisé dans lequel on est, du fait que les modèles de masculinité sont transversaux, mais pas les mêmes. J'étais au Brésil en avril. J'ai travaillé un peu sur les travestis au Brésil. Les travestis ont obtenu le droit de pouvoir voyager en travesti. Les travestis ont obtenu le droit de pouvoir aller dans les backrooms gays. Ces mecs, c'est lieu où les mecs baisent entre eux et qui se réclament d'être homosexuels. C'est a priori interdit aux femmes. Je n'ai pas les noms ici à Montpellier, mais si on prend les saunas gays ou les lieux à backroom, les femmes n'ont pas le droit de rentrer, à moins de se déguiser. J'ai des copines qui aiment bien ça, mais à moins de se déguiser. Eh ben, les travestis en femmes ont eu le droit légalement de rentrer dans les backrooms gays au Brésil. On n'a pas l'équivalent en France des catégories travesties. C'est ça, la masculinité, c'est comme la féminité. C'est un modèle transversal qui a des variations culturelles. Je plaide, moi, pour qu'on travaille là-dessus et il y a peu de chercheurs qui travaillent là-dessus. L'autre point qui me semble intéressant, c'est le virilisme. Alors, on avait défini la virilité avec Pascal Mounier sur les attributs masculins. Enfin, le paradoxe qui est entre les attributs des masculins d'être dominant, d'être fort, de pouvoir utiliser la force, et le fait de bander. Imaginez, je suis un garçon, je ne bande pas. Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas viril ou que je ne suis pas un garçon? Complexe, hein? Toujours est-il qu'on avait pensé que la virilité, c'est l'attribut de la domination masculine chez les mecs.
Et ça, les garçons, ils n'aiment pas cette définition-là. Ça passe pas. Ils veulent être égalitaires et virils. Ils veulent pouvoir dire qu'ils sont égalitaires et qu'ils bandent en même temps. C'est comme ça. Les chercheurs, des fois, on propose des concepts et ça marche ou ça ne marche pas. Donc, j'ai proposé, quand j'ai travaillé sur les jeunes des quartiers populaires, d'origine immigrée postcoloniale, j'ai travaillé sur le virilisme. Des conduites exacerbées de virilité, notamment la violence faite aux femmes. Et le virilisme, ça a marché tout de suite. 3 jours après, j'avais un article dans Le Monde. On fait un petit communiqué sur Internet pour une conférence. 3 jours après, Le Monde reprend. Le virilisme, c'est ceci, cela. Les mecs ont envie de ce concept-là. Autrement dit, de pouvoir dire je suis viril, mais égalitaire. Et puis, il y a des mecs qui ne sont pas corrects. Ça correspond aussi à l'évolution du masculin. Autrement dit, on est dans une période où il faut encore s'affirmer homme ou femme, c'est important, pour certains et pour certaines. Et en même temps, on veut dénoncer du côté des hommes les excès que certains garçons procurent sur les femmes et sur les hommes. Il faut toujours réfléchir aux termes utilisés et aux traductions grand public des concepts scientifiques. Et en même temps, de la pression qu'on a eue, nous, sur chercheurs, pour faire des concepts qui soient audibles. Une espèce de concurrence là-dessus. Alors, sur les. J'ai commencé à quelle heure? On peut dire que j'ai encore 40 minutes, c'est ça? D'accord, c'est bien. Merci. Donc, sur la construction du masculin, je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes qui sont attelés au masculin. Alors, je pense que c'est important, au niveau stratégie politique, de montrer aux hommes l'aliénation masculine, ce que Bourdieu appelle la domination des dominants. Autrement dit, que l'intérêt qu'il peut y avoir pour les garçons de changer. Je ne crois pas à la prison et je suis contre. Je ne crois pas à la répression et je suis contre. Je pense au changement par le plaisir, comme Michel Foucault en parlait. Je pense que c'est important de montrer aux garçons comment nous, comme mecs, on nous aliène à un certain nombre de nos possibilités. La question de l'intime et de l'intimité. On pourrait poser les questions aux garçons ici. Quel est ton ami intime? À qui tu dis tout? À qui tu racontes tout? Tes souffrances, tes plaisirs, tes pannes d'éjaculation, le fait que tu bandes pas, tes râteaux, etc. À qui tu dis ça? Poser la question au mec, c'est souvent y répondre. Et on a peu d'amis intimes. On a des femmes. Ah, les femmes, on aime bien leur raconter tout ce qu'on veut. Et puis elles aiment bien entendre et écouter. Par contre, comme mec, peu. On n'a pas le droit, comme garçon, de parler de l'intime. C'est les gonzesses qui parlent de l'intime. Ça nous est interdit. Alors, on transgresse un peu des fois. Mais c'est assez rare. Et en plus, l'affectif, c'est pas notre tasse de thé. On n'est pas mollasson, nous. On n'est pas empreint de sensiblerie. On va utiliser justement ça pour se distinguer des femmes. Et on le paye cher à qui on peut parler, à qui on peut se dire, à quel mec on peut raconter ce qu'on vit. C'est quoi nos copains? Je ne parle pas des mecs avec qui on voit le passé sur le Ricard. Hein. C'est quoi nos copains avec qui on dit où est-ce qu'on en est? Nos questions, nos doutes. On a été éduqués, nous les garçons, par le travail. C'est notre travail qui nous réalise. Ça tombe bien parce qu'au travail, on est sur une hiérarchie masculine. C'est nos pères, P-A-I-R-S, qui nous donnent nos grades de virilité. C'est nos pères qui nous définissent comme viril ou pas. Et dans le travail, on se confronte entre mecs. En plus, dans le travail, on fait notre œuvre. Les femmes, elles font leur môme, elles font leur domestique. Nous, on se réalise dans le travail. C'est là qu'on on montre de quoi on est capable. Et puis dans nos têtes, on hiérarchise. C'est important d'élever les enfants, qu'ils soient corrects, qu'ils soient bien. C'est des trucs de bonne femme. Nous, on est ailleurs. On est ailleurs et on change le monde quand même. Hein. Vous avez remarqué ? On fait les guerres, on fait la science, on réfléchit, on pense sérieux, nous. On n'est pas dans les trucs de gonzesse, de sensiblerie, et non, on pense sérieux. On est des garçons. Mais on respecte hein, les femmes qui sont des femmes. On respecte celles qui s'occupent de nous, de nos enfants, notre espace domestique, etc. On est des vrais garçons corrects, quoi. Et on fait notre œuvre en même temps qu'on fait notre travail. Écoutez deux garçons qui se rencontrent, qui ne sont pas vus depuis quelque temps, de quoi ils vont parler ? Les femmes, elles parlent de leur mari, de leurs enfants, de leurs amours. Les garçons, ils parlent de leur travail. On est construit là-dessus. Alors, on est aussi construit comme garçon dans le rapport à la sexualité. J'y vais rapidement, parce que j'en parle souvent. La question de bander, j'ai dit tout à l'heure rapidement, mais je suis un mec, donc je bande. Imaginons. Je ne vais pas dire que les garçons dans cette salle sont dans ce cas-là. Hein. Je suis excité, je ne bande pas. Je suis pas un mec. Imaginons. Les garçons dans cette salle sont sans doute pas dans ce cas-là. Je suis excité, mais j'aime bien être pénétré. Et j'aime bien être enculé. Ça arrive. J'en connais certains, moi. Mon particulier. Bon, bref. Je suis pas un mec. Autrement dit, je ne suis un garçon que si je bande. La bandaison fait l'homme. Deuxième question, la manière de bander. Je suppose qu'il y a des garçons ici qui aiment bien bander devant des femmes. Ça arrive, j'en connais. Est-ce qu'il faut à tout prix, je pense, que je les possède, qu'elles sont à moi, quasi que je les viole. Et où est-ce qu'il est, Alain Nenoff. Il est là. Dans les premiers groupes d'hommes à Lyon, on discutait de notre rapport à la baise entre nous. On prenait la pilule, mais on causait beaucoup entre nous. Et c'était curieux, c'est qu'on se rendait compte que nous, les garçons qui étions autour de la table, on mangeait, on buvait en même temps. Et la plupart du temps, quand on baisait, on avait l'impression de dominer, de forcer, quasi de violer l'autre. Ce qui nous faisait bander, c'est de la prendre. Est-ce que je dois forcément baiser qu'une nana en ayant ce fantasme-là ? Est-ce que si j'ai un autre fantasme, je ne suis plus un mec ? Est-ce que si je n'ai pas envie de guider ou de diriger, mais au contraire d'être guidé, de me laisser aller, je ne suis plus un mec ? Je connais plein de copines, et de femmes en général, ou d'étudiantes, qui ont une seule trouille, c'est de ne plus le faire bander. Comment ça va se passer quand je ne ferai plus bander ? On a vraiment une culture autour de l'érection et du fait de bander. Et une culture qui est très sélective. Alors, on est des mecs corrects maintenant, on sait qu'il faut faire des guili-guili avant. Hein. Je fais les préliminaires. On n'a plus le droit de baiser comme ça tout de suite, sinon c'est des salauds. Mais malgré tout, on est sur la centralité de l'érection et de la pénétration. Et de l'éjaculation. Je poserai juste une question aux garçons, mais ils répondront plus tard. Est-ce que jouir, c'est éjaculer ? D'abord, est-ce que quand chaque fois que j'éjacule, je jouis ? Je ne parle pas de ce qu'on raconte à sa copine, c'est autre chose. Hein. Mais est-ce que chaque fois que j'éjacule, je jouis ? Est-ce qu'il n'y a pas des petites et des grandes éjaculations ? Est-ce qu'il n'y a pas des fois, moi tout seul, c'est quand même nettement plus génial ? Et puis, est-ce que des fois, je ne jouis pas sans éjaculer ? Par des caresses, par... C'est un vrai débat entre garçons, un jour on l'aura entre nous.
Le bistrot des ethnologues. Mardi 6 octobre, l'ARCE, atelier de recherche comparative en ethnologie, recevait dans le cadre du bistrot des ethnologues Daniel Weatherland. Ce sociologue et professeur à l'Université de Toulouse est venu débattre autour de son dernier ouvrage, Nous les mecs.
L'autre question dans la construction du masculin, c'est la paternité. Alors, paternité, c'est complexe. Je reviendrai tout à l'heure sur la maternitude. Mais c'est aussi le fait que la société, le monde du travail m'oblige à avoir un modèle de paternité. J'ai fait l'interview il y a encore peu de temps d'un mec qui me raconte comment, pour amener ses enfants à l'école et les récupérer, il bande honteusement dans son travail et raconte que sa voiture est en panne. Dire que sa voiture est en panne, c'est plausible. Dire qu'il va chercher ses bombes, ça ne l'est pas. C'est un mec, c'est un cadre, il doit être là. On a un monde du travail, un monde social qui nous impose un modèle de paternité où on ne s'occupe pas des enfants, où on délègue aux femmes. Alors, en même temps, les valeurs liées à la paternité ont vraiment changé ces derniers temps, hein. Être père, aujourd'hui, c'est prendre du temps avec. C'est pas uniquement être autoritaire. On sait aussi que c'est des fois complexe avec des femmes. Je ne parle pas des mecs qui s'appellent pères divorcés, qui se battent, un peu une guerre, nouvelle guerre, contre les femmes. Je parle de tous ces hommes et ces femmes, ou ces trans, qui ont eu des enfants ensemble et qui se séparent. Et où des gens, des femmes, leur disent aux garçons, on sait mieux que toi ce qui est bon pour les enfants. Et alors, c'est minoritaire, mais il y a un ensemble de séparations, on y reviendra tout à l'heure, qui sont problématiques et qui posent question dans un rapport d'égalité homme-femme. Alors, j'expliquais tout à l'heure la maison des hommes. Comment nous, les garçons, on est socialisés entre nous, dans des rapports qu'on peut avoir de manière exclusive entre hommes et entre mecs. Quelques remarques, c'est qu'aujourd'hui, la maison des hommes, elle est prise d'assaut de toutes parts. Il y a très peu de lieux qui ne sont pas féminisés. L'armée et la police. Alors, même si les premières femmes flics et militaires devaient la jouer virile. Ok. N'empêche qu'aujourd'hui, armée et police sont féminisées. Le sport est encore entre nous, mais on commence de plus en plus à parler du sport des femmes. On va bientôt sans doute imaginer des sports mixtes. Les écoles, aujourd'hui, sont largement féminisées. Les femmes réussissent mieux que les hommes, même si les hommes, au niveau Bac plus 5, reprennent une majorité de postes de pouvoir, etc. En sciences humaines, c'est particulier. Hein, les maîtres de conf sont plus nombreux chez les femmes que chez les hommes. Chez les profs, on a rétabli l'équilibre naturel. Les femmes, il y en a moins que les hommes. Les partis, les syndicats sont féminisés, même si c'est encore... Alors moi, j'avoue que chaque fois que je vais avoir un parti ou un syndicat, j'ai un peu mal à l'aise, un peu très viriliste quand même. C'est encore la culture du mâle dominant. Moi, je suis à Sud, qui est un des syndicats les plus en avance, malgré tout, quoi. C'est complexe, quoi, des fois. Mais ça se féminise et les femmes sont cheftaines, etc. On a peu de lieux, à part les séminaires, à part les légionnaires, où il n'y a pas de mixité qui s'est montrée. Sans qu'elle soit encore réelle et complète, mais la maison des hommes est prise d'assaut de toutes parts. Autrement dit, c'est curieux qu'on puisse justement décrire un modèle à partir du moment où ce qui commence à être mis en cause. Sur les sexualités, je suis à Montpellier, donc On ne va pas s'apesantir sur le poids des gays et des lesbiennes ou des bisexuels. Vous avez quand même une ville très particulière, Montpellier. Au niveau de la prostitution, c'est la ville principale que je connais en France sur la prostitution des garçons, achetés par des garçons. C'est clair que l'hétérosexualité est contestée aussi aujourd'hui par les gays et les lesbiennes. De la même manière, le couple, qui est une survivance du passé, du rapport à deux exclusif, machin truc chouette, là, ça prend l'eau de toutes parts. Je suppose qu'il y a encore des garçons et des filles dans cette salle qui ont l'imaginaire de vivre toute leur vie, à la vie et à la mort, avec quelqu'un qu'ils aiment ou qu'elles aiment. Il faut les laisser croire, mais on sait que la réalité sociologique ou ethnologique est différente. C'est-à-dire qu'on a toutes les chances de vivre des couples successifs. L'enfermement domestique décrit par Christine Delphi sur les femmes dans le couple hétérosexuel est remis en cause. Alors, même si c'est plus compliqué que ça, parce que moi je connais des couples de classe moyenne ou d'intello où la question du travail domestique ne se pose plus. On embauche des femmes plus rarement des hommes de ménage. Et comme par hasard, on les prend immigrés sans papier. Parce qu'on est généreux. Comme ils ne veulent pas travailler ailleurs, on les embauche. Je passe sur les rapports sociaux où nous, blancs et blanches, de couche moyenne, on devient égalitaire en exploitant des gens qui viennent d'ailleurs sans papier. D'ailleurs, entre nous, j'aimerais savoir comment on les paye. Vous les payez combien, les femmes de ménage, chez vous ? Vous les payez au prix des charges sociales, autrement dit, comme elles ne sont pas déclarées, vous leur donnez naturellement les charges sociales avec le salaire, ou vous les payez au SMIC sans charges sociales? Bon, on parlera ça après en buvant des colons. En tout cas, on est sur une époque historique, anthropologique, qui n'a pas son équivalent depuis 30 siècles. On prend les 50 dernières années et les rapports de genre. On n'a pas d'équivalent des transformations sur les 30 siècles précédents. C'est pas rien, ça. On est sur une révolution qui a introduit le féminisme, une révolution inachevée. Et je pense que, du coup, ça pose des problèmes. Idéologiquement, dans cette salle de gauche majoritaire, on est tous pour le fait qu'on soit des personnes libres et égalitaire. Manque de peau, on est, si je regarde vos tenues, rien que ça, on est construit comme des garçons, comme des filles. Je vois peu de garçons en jupe ou en robe ce soir, moi je me suis trompé. Et même les femmes en talons marquent qu'elles sont des femmes, encore. Il y a une dissymétrie là-dessus. Hein. Les femmes ont obtenu de hautes luttes en 72 le droit de porter des pantalons au lycée, c'était interdit avant quand même. Mais les garçons ne sont pas encore battus, porter des jupes, des robes, des sarms, etc. Du coup, on est dans des inégalités persistantes et se pose le problème de comment mesurer l'inégalité. Alors, traditionnellement, dans mes études de genre, dans mes cours de licence, je travaille sur le travail domestique. On explique que un couple qui a deux enfants, la femme fait 2h22 ou 2h02 de travail supérieur à l'homme, en accumulant travail domestique, travail professionnel. Et qu'on demande aux femmes de se rassurer, ça diminue d'une minute par an. Dans 132 ans, on pourra imaginer l'égalité. Ça pose un petit problème. Qu'est-ce qu'on prend comme indicateur de la survivance de la domination? D'une part, quand on prend ces indicateurs sur le travail domestique, on exclut les couples gays ou lesbiens. On exclut les hommes qui vivent seuls. Or, mes travaux montrent et prouvent que quand un mec vit seul après un premier couple, il change. Il n'a pas le choix. Il apprend à faire tout seul. Et que le second couple, on est très différent du premier. Les femmes lâchent et les mecs font des efforts. Je pourrais y revenir après. Mais on nous parle des couples hétéro moyens. Autrement dit, on nous parle de 53% des adultes. 53% seulement. Pas rien quand même. Mais c'est pas tout. Moi, je m'interroge, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre nos indicateurs ? Par provocation, j'en propose un certain, notamment la fellation et le cunnilinguisme, par exemple. On sait que en 1972, le rapport Simon mentionnait que 60% des hommes et 55% des femmes avaient déjà pratiqué des rapports bucco-génitaux. En 92, 76% des hommes, 63% des femmes. En 2008, 85% des hommes, 85,5% des femmes ont vécu des cunnilingus, etc., etc. Est-ce qu'il faut à tout prix prendre le travail domestique comme indicateur de l'égalité ou d'inégalité persistante des rapports hommes-femmes ? Est-ce qu'on ne pourrait pas changer ? Est-ce qu'il faut à tout prix être maso et se dire qu'on n'avance pas ? Et c'est compliqué parce que le travail domestique, c'est un truc qui vous lamine, quoi. On ne peut rien dire après. On annonce 2h02 ou 2h22. Il n'y a plus rien à dire, quoi. Sinon, on est contre le féminisme, on est contre l'égalité, on est contre. Et c'est comme c'est scientifique. Sociologue payé pour ça. Moi, j'invite à multiplier les indicateurs. Et puis à accepter le fait que nos luttes servent à quelque chose. Merde. Il n'y a pas de raison uniquement de penser que les luttes sociales ne servent à rien. Bien évidemment, toutes les personnes qui ont un peu de recul ici dans cette salle savent qu'elles ne vivent pas pareil qu'il y a 30 ans. Pourquoi on garderait les mêmes indicateurs et les mêmes manières de les construire ? L'indicateur travail domestique a été construit en 1986, par des sociologues féministes très progressistes, Delphi, Fougère-Relâche, Feble, etc. Il fallait montrer à tout prix que le travail des femmes, le travail ménager, était aussi un travail. On parlait d'activité de bonne femme à l'époque. C'est normal, ça savait faire, les petites mains. On est 25 ans plus tard. Peut-être qu'on peut trouver des indicateurs plus précis qui arrêtent de penser le monde de manière binaire. En sachant que c'est par exemple complexe. De Saint-Gly évoque une étude sympathique en Angleterre qui était faite en Angleterre. Les femmes, quand leurs hommes font un tiers des travaux domestiques, elles pensent que c'est égal. Quand les femmes font un tiers des travaux de bricolage, ils pensent que c'est égal. Le sentiment d'équité et l'égalité sociologique sont deux choses très différentes. Après tout, c'est qu'un garçon, ou après tout, c'est qu'une fille, pensent beaucoup de personnes. Autrement dit, on est dans une période de transition. Je n'irai pas plus loin, mais je pense qu'il faut aussi travailler sur la notion de couple. Je pense qu'il y en a marre qu'on nous parle du couple. De quel couple on parle ? Moi, j'ai eu un enfant avec une femme et on reste dans un couple parental, qu'on le veuille ou non. Comme beaucoup de gens de gauche, on ne s'est pas engueulé. Comme beaucoup de gens de gauche, on n'a pas été au tribunal. C'est pour ça que les associations de pères divorcés sont si réactes. C'est que je connais peu de gens autour de moi qui ont été au tribunal pour plaider le droit de garde, etc. On s'est arrangé entre nous. On a fait un môme, bon, on l'assume. Et puis, on évolue, quoi. On a un couple parental. Il y a aussi des gens qui baisent ensemble et qui vont avec la liberté ensemble. C'est des couples sexuels. Et des gens qui vivent ensemble. C'est des couples conjugaux. De quel couple on nous parle ? Moi, j'ai une copine qui est une ancienne assistante qu'on avait dans notre équipe de recherche, Tatiana. Elle vit avec un gay et hétéro. Ils font le marché ensemble, ils vont en vacances ensemble, ils reçoivent les beaux-parents ensemble, le frigo est commun naturellement, et ils parlent de nous. Ah, il faut que je demande à mon s'il est libre dimanche soir, il faut qu'on vous invite. C'est un couple conjugal, mais ils ne baissent pas ensemble. Où est le problème ? Il faudrait peut-être redéfinir. On conteste la domination masculine, il faut peut-être contester aussi les structures qui l'organisent. Je vous conseille deux bouquins. Le bouquin de Louis-Georges Tin, c'est L'invention de la culture hétérosexuelle, qui montre que la culture hétérosexuelle date du XIIe siècle, et que c'est entre le XIIe et XVIe siècle qu'elle prend racine. Avant, on parlait des chevaliers, ces chansons de gestes, et l'érotisme était sur entre chevaliers, on s'aimait, etc. Donc l'hétérosexualité est un truc assez récent en termes de culture, en tant que le fait que les hommes et les femmes baisent ensemble. On le sait depuis un bout de temps, il y a reproduction de l'espèce. Mais en termes de faire une culture, une réflexion, une érotisation. Et l'autre bouquin qui vient de sortir s'appelle Hétéro. Alors, il est sorti chez Eppel. C'est assez magnifique, parce qu'on a beaucoup travaillé sur les homosexualités, les bisexualités, les transsexualités. On avait oublié de travailler sur l'hétérosexualité. Comme si elle avait été normale. Ou comme si le fait que hommes et femmes baisent ensemble à deux tout seuls en excluant tout le monde, là, en se cachant, là, ça soit un truc logique. Donc, Hétéro, c'est un colloque qu'il y a eu à Bruxelles il y a un an, et c'est brillant. Vraiment, je vous le conseille et faites-le acheter, parce qu'il ne vendra beaucoup. Ça, c'est fait. Mais quelques mots sur l'amour. On nous accuse souvent, les garçons sociologues ou sociologues en général, de ne plus parler de l'amour. Moi, je suis pour l'amour. Mais je suis pour déconstruire ce qu'on appelle l'amour entre hommes et femmes. Je suis pour montrer qu'on n'a pas les mêmes notions de l'amour. Qu'on ne nous a pas éduqués. Alors, tout le monde, j'espère pour vous ici dans cette salle, connaît l'émotion amoureuse qui vous traverse. Oh, le truc qui. Enfin, on bave et. Fabuleux. Sauf qu'on ne bave pas pour la même chose entre garçons et filles. Surtout à moyen terme. Alors, je ne parle pas de la rencontre amoureuse. Entre hommes, entre femmes, entre hommes et femmes. C'est un peu toujours le même schéma. Il y a un truc, on découvre, les hormones se mettent en branle. Mais qu'est-ce qu'on a dans la tronche? C'est quoi l'idéal? C'est quoi qui représente nos manières de faire, qui légitime nos rapports sociaux? Eh bien, hommes et femmes, on n'a pas les mêmes représentations de l'amour. Le prince charmant, chez nous, ne correspond pas à grand-chose. Et les garçons, traditionnellement, et ça change très vite, avaient l'habitude de séparer dans l'amour les femmes, maman, et les femmes, putain. Ou plus récemment, les femmes salopes. J'ai fait un groupe de parole avec les prisonniers à la prison de Valence il y a peu de temps. C'est très sur les violences, c'est très très sympa. Le mec est très chaleureux. Et il y a un mec qui me dit, mais attends, je vais quand même pas prendre ma femme par les cheveux en disant tu me suces. Elle embrasse mes enfants. T'imagines? Je lui dis non, je comprends pas. Il t'imagine pas? Et le mec, c'est dégueulasse quand même, quoi. Le sperme, c'est dégueulasse. Elle embrasse mes enfants. Cette bicatégorisation maman putain est très efficiente chez un certain nombre de garçons. Mais en même temps, ce qui est très efficient, même chez les hommes progressistes, c'est qu'il y a plusieurs manières d'aimer. Et face à une femme qui réclame l'exclusivité, la fidélité et tout ce qu'on veut. C'est compliqué de lui faire comprendre qu'on n'a pas les mêmes schémas. Le plus simple, disent les garçons, c'est de leur dire oui. Je travaille avec mes étudiants depuis un bout de temps sur le je t'aime. On interroge des couples hétéros, homos, gays, lesbiennes, sur quand vous dites je t'aime, ça veut dire quoi? C'est fabuleux. Parce qu'on dit les mêmes mots, on a les mêmes émotions, et on dit des choses différentes, majoritairement. Je ne parle pas ici des gens qui ont des inversions de position de genre ou des contestations. Majoritairement, on dit des choses différentes. Et je vous conseille le bouquin de Kaufmann sur le prince charmant. Je pense que c'est encore d'actualité. Quand on écoute les garçons qui nous racontent leur vie de couple, je suis désolé mesdames, ils nous parlent d'ennui. Il faut le dire, les mecs s'emmerdent dans un couple. Alors, je sais pas, les femmes, je parle pas au nom de leur nom, les mecs s'emmerdent. Mais en même temps, ils aiment bien la femme avec qui ils sont. Mais ils s'emmerdent aussi parce qu'ils sont confrontés à une demande, une sollicitation de la pub, des médias, qui fait que on doit maintenant être soi très performant. On doit sans arrêt être dans l'amour actif, dans le désir. Donc quand on s'emmerde, quand l'érotisme de l'habitude vient couvrir notre quotidien, on a tendance à aller voir ailleurs. J'aime bien parler de ma famille. J'ai un neveu qui, quand il avait 20 ans, m'insultait, me disant, Daniel, tu dis n'importe quoi, c'est des conneries ce que tu racontes, nous les garçons, on est différents, on a changé. J'ai revu 4 ans après, parce qu'il est à Singapour, maintenant il est cadre supérieur, parce que sa copine le laissait tomber, parce qu'elle avait été voir une prostituée, qu'elle avait appris, etc. Je pense qu'il faut toujours relativiser la parole des garçons. Les jeunes hommes aujourd'hui, qui ont 20 ans, ou un peu moins, qui vivent leur première expérience amoureuse, sont persuadés qu'ils vont être différents des aînés. C'est ça la jeunesse. La jeunesse, c'est la prétention d'envoyer chier les vieux ou les vieilles. Quelques années après, quand leur femme a pris quelques kilos, notamment un enfant, deux enfants, qu'elle ressemble de moins en moins aux anorexiques qu'on nous donne à voir dans la porno, ils se souviennent qu'ils peuvent bander par ailleurs. Le modèle est très très prégnant. Donc je pense que les garçons, quand les hommes en général, n'ont pas envie d'embêter ou de faire souffrir leur compagne, donc ils préfèrent ne pas parler des relations extra-conjugales qu'ils ont. Je suppose que dans la salle ici, il y a un certain nombre de personnes qui sont maîtresses d'hommes mariés, qu'elles ont entendu ces promesses de mais ça ne durera pas. Je vais me séparer, je l'aime plus. Bon, c'est l'autre versant du discours. Mais c'est le même. Autrement dit, de pouvoir faire cohabiter des différents modèles amoureux et différents modèles érotiques. Voilà, on va arrêter là. Je pense qu'il faut, comme question centrale, comme ligne centrale, c'est la question de la victimologie qu'il faut éviter, et pour les hommes et pour les femmes. J'entends des mecs aujourd'hui qui commencent à être là-dedans. Et le fait que on sait ce qu'on veut plus vivre, les violences faites aux femmes, l'homophobie, l'hétérosexisme, la domination. On sait qu'on doit croiser rapports sociaux de sexe et de genre, mais aussi rapports postcoloniaux, nord-sud, jeune-vieux, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On sait qu'on veut vivre avec les gens qu'on aime, mais on ne sait pas trop non plus, ça veut dire à deux, à plusieurs. On sait qu'on veut baiser et être amoureux, mais comment faire? Je pense que c'est ce trouble-là que manifestent certains hommes, mais qui n'est pas que réservé aux hommes. Je pense on est dans une période différente et que les chercheurs, les sociologues, les anthropologues, les ethnologues, on a une place là-dedans, non pas pour faire des prévisions, c'est pas notre job, mais pour décrire de manière assez fine comment les gens échangent. Il n'y a aucun intérêt à dire en 2010 ou en 2009 que la chose est la même chose qu'il y a 30 ans. Je pense qu'il faut bosser sur les nouvelles générations ou sur les générations plus âgées qui ont changé de modèle de manière obligée.
C'était le bistrot des ethnologues. Pour plus de renseignements sur le programme du bistrot des ethnologues, www.ethnobistrot.fr. Le bistrot des ethnologues, une émission proposée par l'ARCE et mise en onde par Divergence FM.